Frères et sœurs, voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie, un espace pour accueillir, un espace pour aimer, un espace pour recevoir, un espace pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix selon l'évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous pour nous réunir avec ce premier spontané indiqué dans le livret liturgique qui figure au début de notre recueil de chants, au début du psautier français. Réjouissons-nous au Seigneur. Aujourd'hui, dans le calendrier liturgique de l'Église d'Orient, le temps de Noël. Certains de nos compatriotes se sont même rendus en Russie pour célébrer Noël. C'est aussi le temps de l'Épiphanie dans l'Église d'Occident. Et c'est l'occasion pour nous de louer Dieu pour ce moment de manifestation où, à travers un homme, Jésus de Nazareth, nous découvrons ce qu'être humain veut dire. Nous nous unissons dans la prière. Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie. Et toi, Éternel, tu nous montres de quelle manière tu te manifestes au milieu de nous. En Jésus-Christ, tu publies ta parole, tu te présentes avec un visage d'amour, et tu transmets ton héritage à toute l'humanité. Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie, tu te manifestes au milieu de nous, et loué sois-tu pour cela. En Jésus, l'Emmanuel, tu accueilles des étrangers qui viennent voir cela. Tu guides les désorientés, tu soutiens les marcheurs fatigués. C'est aujourd'hui l'Épiphanie, le moment pour nous de nous rappeler de quelle manière tu te manifestes au milieu de nous. Tu prends dans tes mains les mains rouges, les mains jaunes, les mains noires, les mains blanches, celles et ceux qui n'ont plus l'activité de leurs mains et qui malgré tout désirent les tendre de partout pour saisir l'étoile. Tu regardes les visages levés de partout pour essayer de rejoindre ta tendresse, toujours et partout. Oui, aujourd'hui c'est l'Épiphanie, tu te manifestes au milieu de nous, loué sois-tu. Sur la paille, en Jésus de Nazareth, ton Fils unique bien-aimé, tu commences une chaîne de solidarité universelle qui nous rejoint aujourd'hui, ici même. Et cette image de la crèche, c'est cette image que nous regardons au-delà des apparences, et nous y voyons un enfant qui ouvre ses bras, et nous te reconnaissons, toi qui déjà te déploies pour que s'accroche à toi toute l'humanité. Oui, c'est aujourd'hui l'Épiphanie, tu te manifestes au milieu de nous, loué sois-tu Seigneur. Amen. Frères et sœurs, dans notre psautier français, le psaume 84 nous donnera les paroles et la mélodie pour poursuivre cette louange. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 84.
See you.
C'est dans l'Évangile selon Luc que j'ai retenu quelques mots qui expriment la volonté de Dieu telle que Jésus-Christ en rend compte. Voici ce qu'il dit. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais vous, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent et prêtez sans espérer en retour. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Père, pardonne-moi. Tu as mis sur mon chemin des affamés et je n'ai que trop souvent songé à ma faim. Tu as mis sur mon chemin des assoiffés de tendresse et je suis resté attentif au seul battement de mon cœur. Tu as mis parfois sur mon chemin quelqu'un à consoler et il m'est arrivé de ne pleurer que sur moi-même. Tu as mis sur mon chemin quelqu'un à soutenir, et c'est mon fardeau que j'ai porté. Tu as mis sur mon chemin beaucoup de sanglots du monde, et c'est à mes succès et à mes joies que j'ai pensé. Père, pardonne-moi. Donne-moi de pouvoir désormais apprécier, repérer ce que tu mets sur mon chemin. Donne-moi de pouvoir offrir le pain, l'espérance et la joie à ceux que je croise sur mon chemin. Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous entendons de quelle manière l'Éternel répond à notre prière, répond à notre condition. À celui qui a soif, dit l'Éternel, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, en cette année nouvelle, eh bien recevez l'assurance que Dieu fait toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles qui concourent à notre bien, à notre joie profonde, dans notre vie, dans notre cœur. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance à l'Éternel. Et dans une époque, dans un moment où nous pouvons constater qu'il y a comme un air de clivage qui a tendance à séparer les uns des autres, il n'est pas mauvais de rappeler notre foi. Notre foi en un Dieu que nous pouvons appeler amour. Oui, Dieu est amour. Et par amour, Dieu, notre Père, a créé ce monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son Esprit nous rend responsables et libres de vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui comme chaque jour à répondre à son amour, dans l'Église comme artisan de vérité et de pardon, parmi nos contemporains comme artisan de justice et de paix. Dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toutes choses, Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Frères et sœurs, c'est dans l'Évangile selon Marc que je vous propose d'entendre l'épisode de la baie des cochons. C'est au chapitre 5 de l'Évangile selon Marc. Je vais vous lire les premiers versets de ce cinquième chapitre. Les disciples et Jésus sont en train de traverser le lac de Génézareth, la mer de Kinneret, selon l'appellation. Donc ils sont au nord de l'actuel Jourdain, ce qui serait un peu la limite entre Israël et la Syrie. Et donc, en traversant cette mer, ils sortent de ce qui était appelé la terre promise et se rendent de l'autre côté. Donc, ils arrivent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de cochons qui paissaient. Et les démons le prièrent en disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Ce n'est pas une légion d'honneur, là. Assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Frères et sœurs, avant de reparcourir cet épisode et de faire nous-mêmes la traversée, je vous propose de prendre votre recueil de chants, louanges et prières. Notre organiste va nous jouer une première fois la mélodie de ce cantique pour que nous l'ayons bien dans l'oreille, et ensuite nous chanterons les quatre strophes et nous pouvons d'ores et déjà nous lever. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, sous une autre lumière. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel, comme de vrais enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, si j'ai retenu ce récit pour notre méditation ce matin, c'est parce qu'il me semble que cette page d'Évangile peut constituer une excellente feuille de route pour nous cette année. En quelque sorte, notre programme pour l'année. Le premier point que je relève, c'est la sensibilité de Jésus au réel. Vous l'avez entendu, le récit commence par la description d'un homme qui vit parmi les morts et dont on dit à plusieurs reprises qu'on ne peut pas le lier, qu'il est indomptable, une sorte de bête sauvage, totalement incontrôlable. Donc ce mort vivant est réputé pour être indomptable et déjà manifestement il ne l'est pas autant que cela puisqu'il se taillade, qu'il est manifestement traversé par des pulsions de mort. Et puis, autre point notable, c'est que Jésus va porter un regard tout à fait différent de cette rumeur publique, puisque nous apprenons très rapidement que Jésus, en le voyant, s'adresse à lui et lui dit de façon manifestement répétée « Sors de cet homme, esprit impur ». Là où tout le monde voyait un insoumis, Jésus repère au contraire quelqu'un qui est particulièrement soumis. Et de fait, quand il va lui demander son nom, l'esprit qui parle à la place de cet homme va répondre « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs ». À première vue, cet homme est on ne peut plus libre, mais si on prend la peine de regarder attentivement la situation de cet homme, il n'est pas aussi libre qu'il en a l'air, et Jésus ne s'y trompe pas. Il voit un homme captif d'une multitude de choses dont il va le débarrasser. Eh bien, c'est cette sensibilité au réel qui m'intéresse. Parce que, bien souvent, nous avons toutes les peines du monde à faire preuve nous-mêmes de cette sensibilité au réel. Nous avons du mal à avoir un regard suffisamment affûté pour apprécier la vérité d'une situation et notamment d'une personne. Et nous avons parfois du mal aussi à cesser d'être aveugles aux véritables enjeux de la vie, n'appréciant que la surface de cette vie, nous arrêtant à l'écume de l'histoire. Bien souvent, nous en restons à une situation de façade et nous avons du mal à trouver quels sont les vrais sujets, quelles sont les vraies questions qui se posent, quelles sont les vraies questions à traiter. Et dans une certaine mesure, lorsque nous lisons l'Évangile, nous sommes frappés de constater que c'est simple en fait, que les vraies questions, on les a sous les yeux. Mais lorsque nous sommes face au réel, les choses sont beaucoup moins évidentes. Et dans une certaine mesure, nous pouvons nous décourager en nous disant qu'il faut être le Christ pour avoir cette sensibilité au réel, pour voir au-delà des discours convenus, au-delà des prêts à penser. Eh bien, je pense que ce serait une erreur de notre part de considérer que nous sommes incapables d'un tel regard sur la vie et que cela est juste réservé à un homme du passé, Jésus de Nazareth. J'en veux pour preuve qu'il est au moins un homme de notre temps, capable d'un tel regard pénétrant, et je pense à un homme un peu en forme d'hommage, Rowan Williams, qui était archevêque de Canterbury jusqu'au 1er janvier dernier, primat de l'église anglicane. Eh bien, voilà un homme. Je ne sais pas si vous le connaissez un peu, si vous avez lu ou entendu ce qu'il disait ou écrivait. Voilà un homme capable d'analyse économique, morale, éducative, politique, théologique, qui n'était pas dicté par les éditorialistes du moment, qui, en général, nous disent ce qu'il faut penser de chaque situation. Le 104e évêque, archevêque de Canterbury, avait cette capacité de prendre le pouls de l'époque, de repérer les véritables sujets et de les traiter. Alors vous me direz, nous ne sommes pas Jésus-Christ, nous ne sommes pas non plus l'archevêque de Canterbury. Mais la vérité est qu'ensemble, nous sommes bien plus que lui. Quel était son talent ? Eh bien, c'était de ne pas s'enfermer dans son bureau sur ses dossiers, mais d'aller à la rencontre de son église, l'église anglicane, église catholique, au sens d'église universelle. Église anglicane dont il était garant de la communion. Et il faisait connaissance véritablement de toutes les situations auxquelles les fidèles de cette église étaient affrontés. La spécificité de l'archevêque de Canterbury, c'était donc d'avoir une conscience de la vie et du monde nourrie par tout ce que lui offrait la vie de chaque église de cette communion. Ce n'est donc pas un regard construit par sa seule petite lorgnette dans son dialogue obsessant entre la Bible et son âme. C'est l'église anglicane tout entière, par-delà toutes les rives, qui était convoquée dans chacune de ses interventions. Eh bien, je pense que nous pouvons faire mieux que lui, lorsque nous sommes ensemble là, comme c'est le cas un dimanche matin. Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes l'Église universelle, au sens paulinien du terme, le corps du Christ. Et lorsque nous sommes là ensemble, ce sont les préoccupations de Madagascar, du Cameroun, de Saint-Germain-des-Prés, du Val-d'Oise, du Proche et du Moyen-Orient, de Chine, d'Australie, d'Allemagne, à tel point que l'on peut même parfois se demander si le soleil se couche parfois sur l'oratoire du Louvre. Mais plus que ces points géographiques, qui sont nos racines, ou les lieux où résident nos proches, ou encore les lieux qu'habitent nos pensées, nous formons ensemble la plus belle compagnie d'expertise qu'on puisse oser imaginer. En prise directe avec les questions éducatives, parce que nous sommes enseignants, inspecteurs, lycéens ou étudiants, en prise avec les questions de justice, parce que nous sommes victimes, avocats, magistrats ou délinquants, toutes les dimensions de la vie sont là, réunies, parce que nous sommes confrontés ensemble à ce qu'est la vie. Peut-être confrontés à la fin de vie, parce que nous sommes malades, parce que nous avons quelqu'un d'âgé dans notre famille, parce que nous sommes aides-soignants. Nous sommes concernés par le mariage pour tous, parce que nous sommes juristes, parce que nous sommes homosexuels, parce que nous sommes législateurs, parce que nous sommes éthiciens, parce que nous sommes fiancés. Nous sommes à la fois consommateurs de culture, promoteurs de culture, producteurs de culture. Nous sommes médecins ou malades. Nous sommes parents, diplomates, isolés, responsables, réfractaires, utilisateurs. Nous sommes revenus de tout, nous sommes curieux de tout, nous sommes l'Église universelle, le corps du Christ, ensemble. Et cela vaut mieux que tous les archevêques de Canterbury. Mais, petit problème en quelque sorte, quand engageons-nous vraiment de profonds dialogues enrichis par toutes ces expertises que nous portons ensemble, là, réunis ? Il y en a un qui parle et tous les autres qui écoutent. C'est quand même une sorte d'asymétrie, même si les pasteurs de l'oratoire parlent nourris de tout ce que vous êtes. N'y aurait-il pas intérêt de temps en temps à supprimer quelques médiations et à vous parler les uns les autres directement ? Sans passer par la case pastorale. Ensemble, nous avons des capacités d'analyse christique. Eh bien, encore faut-il que nous les développions, que nous nous mettions en situation de nous parler et de mettre en commun nos observations, nos étonnements, nos questions. Encore faut-il que nous acceptions de rejeter ce qui ligote invisiblement notre parole, ce qui la tient captive dans des prisons invisibles. Comme c'était le cas pour cet homme. A priori, on ne peut plus libre, mais en fait, complètement coincé. Il peut nous arriver de donner le sentiment, notamment au protestantisme, d'être insoumis, indomptable. Est-ce que ce n'est pas ce que nous revendiquons, une foi insoumise ? Sur le papier, c'est comme ça. Il arrive bien souvent que nous soyons en réalité ligotés à des intérêts inavoués, des fidélités souterraines, des déterminismes dont nous n'avons pas toujours bien conscience, mais qui brident notre liberté de parole. Sur le papier, nous sommes libres. On ne peut plus libre. Mais quelle est notre réelle liberté de parole, dans les faits, actuellement, là ? Enfin, pas là, précisément pendant la prédication. Ne m'interrompez pas tout de suite. Mais dans notre vie d'église. Certainement, parfois, notre parole est bridée, retenue en tout cas, pour une raison louable, celle de ne pas blesser notre interlocuteur, et nous préférons nous censurer que de risquer de le blesser. Parfois, c'est pour des raisons moins louables, pour des raisons de neutralité dans l'espace ecclésial ou de laïcité dans l'espace public. Et du coup, nous gardons nos convictions dans notre poche ou pour nos proches, ceux qui nous écouteront sans nous juger ou plus exactement sans nous condamner. À vrai dire, nous sommes loin d'être tout à fait libres de faire valoir nos expertises ou nos craintes, nos questions, nos doutes. Et nous sommes souvent loin de nous jeter aux pieds du Christ dans l'espoir d'être libérés de nos peurs, de nos conventions, de nos systèmes de fidélité qui fonctionnent si souvent comme des systèmes de neutralisation. Le fameux « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Je ne dis rien sur ce sujet qui est sensible pour toi et j'attends qu'en retour tu ne dises rien sur ce sujet qui est sensible pour moi. Cesse donc de me tourmenter. Crie la légion d'esprits impurs au Christ. Cesse donc de m'importuner et laisse-moi me nourrir tranquillement de cette esclave qui n'ose plus rien dire, qui n'ose plus protester et qui m'est donc entièrement soumis. Alors il ne s'agit pas de faire comme cet homme possédé qui se taillade jour et nuit. Ne rentrons pas dans une logique mortifère en disant que nous ne valons rien, etc. Nous sommes censés avoir été libérés à un moment donné. Mais il faut reconnaître que nous avons des modes de relation policés, peut-être un peu trop policés parfois. En tous les cas, policés au point que nous avons du mal à nous parler, en dehors des petits comités. Le problème, c'est que si nous échangeons des banalités, et que les banalités deviennent notre mode de communication, nous risquons, nous aussi, de nous conduire tout droit dans le précipice et de suffoquer, de nous noyer comme des êtres banals. Le Christ, dans cet épisode, sauve l'homme de cette vie qui n'est plus sa vie. Le Christ sauve l'homme de n'être plus qu'une marionnette ou une sorte de fétu de paille malmenée par des éléments qui se jouent de lui. Le Christ nous sauve de la banalité en nous libérant de ces légions de freins qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Il nous permet d'être un peu nous-mêmes. Et de ce point de vue aussi, l'ancien archevêque de Canterbury, Rowan Williams, me donne à rêver. Allez consulter des photos de lui et observez sa coupe de cheveux. C'est déjà tout un programme de liberté d'être. La vérité est que j'ai toute confiance dans notre capacité à adhérer dans cette dynamique de libération de la parole suscitée par le Christ. Nous sommes des êtres capables, notamment lorsque nous sommes ensemble. Il faudrait juste que nous acceptions un petit peu de nous laisser libérer. Mais je pense que nous sommes capables, qu'il y a ce désir au fond de nous. Simplement, soyons vigilants, comme le texte nous y invite d'ailleurs. Parce que, aussitôt libéré de ses démons, l'homme court vers Jésus pour rester avec lui. Et c'est, je suppose, pour se lier à lui, ce qui risque de le ligoter à nouveau. En le renvoyant chez lui, Jésus coupe court à ce risque de fanatisme religieux qui consiste à laisser la parole à une classe dirigeante, à une caste, à quelque dignitaire que ce soit. Cet épisode nous montre que nous ne sommes jamais libres une fois pour toutes, que c'est toujours une conquête, toujours à renouveler, toujours à reprendre, qu'il faut toujours à nouveau se jeter aux pieds du Christ. Et le goût de la liberté n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux répandu dans le monde. Ce texte aussi le montre bien. Nous le voyons avec ces personnes qui ne veulent pas que Jésus continue à exorciser leurs peurs, leurs conventions, leurs prêts à penser, à parler, à dire. En le sommant de quitter le territoire, les gens veulent que Jésus arrête de libérer la parole. Ils veulent préserver leur petite vie tranquille, leurs petites combines, leurs petits arrangements, leurs petites croyances, leurs petites névroses, leurs petits liens de soumission mutuelle. Ils ne veulent pas de cette liberté qui a mis l'homme possédé dans le bon sens, saint d'esprit, plein de bon sens, capable de penser de manière débridée. Alors, pour nous prémunir de ce genre de travers, nous avons un petit gris-gris. C'est la devise de l'Église réformée de France. Des fois, on l'oublie, mais la devise, c'est « l'Église réformée est toujours à réformer ». Ecclesia reformata, semper reformanda. Ça semble être une formule magique qui marche mieux en latin. Eh bien, c'est une phrase qui nous invite à ne jamais nous endormir sur nos lauriers, ne jamais nous en tenir à nos bonnes intentions ou à nos premiers pas. C'est comme pour les bonnes décisions du premier de l'an. Il ne suffit pas de se dire cette année, j'arrête ceci, je commence cela. Ah non, en fait, il faut le faire, il faut tenir, il faut résister. Parce qu'il y a un risque réel à préférer les marmites pleines d'Égypte à l'aventure du désert qui précède la terre promise. Il y a un risque à préférer la marque de collier sur le cou que porte le chien de la fable, qui pourrait tout aussi bien être le chiffre de la bête de l'Apocalypse, qu'à avoir l'aspect un peu famélique du loup. Avec cet épisode biblique, il me semble que le Christ nous met devant une sorte d'alternative. Quelle est notre préférence? Quelle est notre préférence personnelle, notre préférence ecclésiale? Eh bien, il me semble que ce passage d'évangile nous invite à quitter la certitude de ce qu'on possède pour s'attacher à l'espérance de ce qui est à vivre selon l'évangile. Non pas se contenter de notre état dépressionnaire, mais oser une vie dont nous n'avons pas toute la maîtrise, mais qui, par la foi, peut être portée grâce à ces vis-à-vis qui, avec moi, constitue ce qu'est la vie. Préférer l'ultime au conditionné. Préférer l'aventure de la vie à la familiarité d'une vie parmi les tombeaux. Amen. ne pas s'en tenir à son « quant à soi », mais oser l'aventure du dialogue et de la rencontre avec l'autre. Voilà ce que nous allons chanter au cantique 412, qui, je le répète à chaque fois, n'est pas un cantique funèbre, mais un cantique de joie. Oubliez toute histoire au nord de notre globe pour penser ces exorcismes et ces libérations et cette proximité avec le divin. Nous nous levons pour chanter le cantique 412, les strophes 1, 2, 3 et 4. Place. Voilà, en cette nouvelle année, nous avons aussi un nouveau mode d'accompagnement musical. Notre organiste est au pied de la chaire parce que notre grand orgue est en train d'être restauré et donc la console est à plat en attendant de ressusciter dans une huitaine de semaines. Et donc, ça nous permet comme cela d'avoir aussi notre organiste à portée de regard. Notre sacristain est actuellement en congé, et donc ce sont les diacres de notre église qui ne le remplacent pas, car il est irremplaçable, mais qui remplissent les devoirs qui lui incombent. Donc, merci aussi à vous de rendre ces services-là. Dans notre agenda, il y a tout d'abord, à l'issue de ce culte, un repas qui sera servi salmono en face aux quatre rues de l'Oratoire, comme chaque premier dimanche du mois. C'est un repas excellent pour la modique somme de 10 euros, sachant que celles et ceux qui seraient empêchés par la question du prix sont néanmoins les bienvenus, car jamais un tarif ne devrait retenir quelqu'un dans notre église. Et puis vous avez aussi la liberté de donner plus, bien évidemment, de toute façon. Et comme par hasard, le dessert sera sous forme de galette. Ça, c'est pour vous inciter à venir. Au cas où l'autre bonne raison, qui est celle de pouvoir partager un repas où on rencontre des gens qu'on n'a pas nécessairement choisis, où l'on partage quelques convictions, quelques sujets, quelques expertises, ne suffirait pas. Ensuite, dans notre agenda de la semaine, lundi à 19h30 a lieu le cours de grec pour les débutants. Donc les activités se font en face aux quatre rues de l'oratoire. Le cours de grec est au rez-de-chaussée à gauche dans la bibliothèque. Mardi à 14h30, la lecture biblique du cycle consacré à l'évangile selon Jean. Et ce mardi sera consacré à ce passage de l'évangile selon Jean où Jésus est confronté à un aveugle de naissance. Mercredi, une conférence organisée par la Société d'histoire du protestantisme français, et qui aura donc lieu dans les locaux de la SHPF, 54 rue des Saints-Pères. C'est une conférence donnée par le professeur Marianne Carbonnier-Burcard, qui était professeur d'histoire contemporaine à la faculté de théologie. Et l'intitulé de cette conférence, c'est « Les réformateurs et le mariage pour tous au XVIe siècle ». Mercredi, 18h30. Jeudi, à l'oratoire, nous y revenons, répétition du chœur. Et dimanche prochain, comme chaque dimanche, à 10h30, notre culte présidé par Marc Pernaud. C'est maintenant le moment de l'offrande, l'occasion de vous dire deux, trois petits mots sur notre exercice 2012, qui est un exercice paradoxal sur le plan financier. Plus de paroissiens, plus d'offrandes pendant le culte, mais moins d'offrandes nominatives, c'est-à-dire les offrandes que vous faites sous forme de chèques, de virements bancaires, de dons internet, de paiements en carte bleue auprès de Jean-Claude Duraud, et qui vous permettent de recevoir un reçu fiscal, mais peu importe, c'est surtout ces offrandes nominatives qui permettent à notre trésorière d'avoir une vision un peu claire de notre situation financière et de ne pas finir trop en retard. Voilà, si cette année, nous pouvions avoir encore des recettes occultes en augmentation, mais aussi des offrandes nominatives en augmentation, ce serait bien mieux pour éviter les légers déficits budgétaires. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, la célébration de Noël, aussi bien que la célébration de l'Épiphanie, évoque de quelle manière ta présence est une présence d'ouverture. De quelle manière tes mains se sont ouvertes pour nous. C'est-à-dire à quel point la vie s'ouvre devant nous, pleine de beauté, pleine de possibilités, pleine de difficultés aussi. C'est la raison pour laquelle c'est fortifié par notre foi, cette confiance que nous partageons, que nous voulons nous lancer dans cette année nouvelle, dans un esprit de communion qui donne de l'intensité à cet amour que tu nous offres, qui nous unit et qui nous permet d'avancer dans cette aventure de la vie sans craindre en permanence pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous sont chers. Oui, nous recevons de toi une parole vivante, une parole qui éclaire notre vie, une parole qui nourrit nos engagements, une parole qui stimule notre vie. Puisse cet amour continuer à élargir notre horizon, à fortifier nos relations, à nous donner suffisamment confiance pour que nous n'ayons jamais peur d'aller à la rencontre de l'autre. Noël, l'épiphanie, désigne l'homme nouveau, celui que tu viens dresser en nous, vers ton royaume et vers ta justice. Nous voulons être cet homme nouveau. Nous voulons, nous aussi, nous jeter au pied de la vie pour être redressés et libérés de tout ce qui nous retient d'exister, tout ce qui nous retient d'aller à la rencontre de l'autre, tout ce qui nous retient de découvrir chez l'autre une richesse qui accroîtra notre expérience de la vie, notre plaisir de la vie. Et nous te rendons grâce pour cette œuvre qui est ton œuvre, celle de nous rendre familiers de celles et ceux qui sont pour nous l'autre, l'autre parfois inquiétant, mais l'autre qui est notre frère, notre sœur. Et maintenant, nous voulons te remettre celles et ceux que l'amour du Christ a confié à notre amour. Celles et ceux que nous avons peut-être du mal à aimer, mais que nous ne voulons pas laisser, que nous ne voulons pas abandonner. Et nous te les confions dans le secret de notre cœur. Pour notre Église et pour toutes les Églises, pour ceux qui savent ton amour, pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui le méconnaissent, nous te prions. Nous te prions d'une présence auprès d'eux, d'une présence qui délivre un message et qui les délivre de tous les verbiages qui empêchent la parole de venir au monde. Et du plus profond de notre cœur, unis dans une confiance en toi, nous nous élevons corps et âme pour t'adresser cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il paraît que ça va mieux en le disant, donc je vous souhaite une bonne année. Je ne suis pas très fort pour les vœux, donc vous choisissez ce qu'il y a de meilleur pour vous et ça ira très bien ainsi. En revanche, il y a par-delà tous ces vœux, tous ces espoirs, une bénédiction qui n'est pas ma bénédiction, dont je ne fais que l'écho, mais qui nous rejoint et nous relie à l'universel, à l'ultime, à l'absolu. Car le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.